Le Théâtre La 16e rouvre ses portes pour la saison 2021-2022. Pour cette raison, on vous invite en coulisses pour écouter des rencontres inédites avec les artistes des spectacles qui arpenteront nos scènes tout au long de l'année. En coulisses, le podcast du Théâtre La 16e, ça commence tout de suite. Bonjour, merci beaucoup de nous rejoindre en coulisses à la 16e, ravi de vous avoir parmi nous. C'est un épisode un peu spécial, pour la première fois depuis le début de ce balado, nous recevons deux invités. L'une est comédienne, chanteuse, directrice artistique du Trident à Québec de 98 à 2003, puis du Centre du Théâtre d'aujourd'hui à Montréal de 2004 à 2012. Vous l'avez sûrement vu au cinéma ou à la télé dans les séries Boomerang, Mémoire vive ou encore Un monde à part, des rôles qui lui ont valu 5 prix Gémeaux, mais c'est au théâtre qu'elle se fait connaître. Allez, je lance quelques spectacles, Le songe d'une nuit d'été, mise en scène par Robert Lepage, Les Troyennes, mise en scène par Wajdi Mouawad, L'officier de la garde, mise en scène par Marie Gignac, ou encore récemment Les filles du Saint-Laurent, mise en scène par Alexia Burger. En 2001, elle se fait même décorer chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, pas mal. Mon autre invité est auteur et metteur en scène, directeur artistique de la compagnie Trois Tristes Tigres, c'est pas facile à dire, et depuis 2016, co-directeur général et directeur artistique du Théâtre de Quatre-Sous à Montréal. Trois de ses textes ont été finalistes au prix littéraire du gouverneur général, l'Énéide, Moi dans les ruines rouges du ciel, qu'on avait reçu d'ailleurs au Théâtre La 16e, et Five Kings, inspiré du cycle des rois shakespeariens, un spectacle qui a voyagé au Canada et en Europe. Ensemble, ils ont développé ce montage théâtral de l'œuvre autobiographique de Gabriel Roy, La détresse et l'enchantement, un spectacle qu'on reçoit en avril et qui nous fait découvrir l'épopée de cette autrice franco-manitobaine qui est à la recherche de sa voix VOIE et de sa voix VOIX. Je suis très heureux d'accueillir Marie-Thérèse Fortin et Olivier Kemed. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour.
Tout d'abord, quand est-ce que vous l'avez trouvé, votre voix?
Ah! Mon Dieu, ça, c'est une grande question. Moi, je pense que c'était au cégep. J'étais étudiante en sciences éducation sans maths. Et je ne savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie, comme beaucoup de jeunes, je pense, à qui ça arrive. Mais il y avait une troupe de théâtre très, très active au cégep de Matane, et qui était dirigé par un certain Michel Bouchard, qui était étudiant en tourisme, et qui s'est référé devenir plus tard Michel-Marc Bouchard, l'auteur dramatique que l'on sait. Puis le tourisme, ça a dû l'aider à faire voyager ses pièces. En tout cas, il a utilisé toute sa formation. Et j'ai commencé avec eux à faire pendant 2 ans des spectacles étudiants, et un professeur qui m'a vu sur scène m'a vraiment poussé à me présenter dans les écoles de théâtre. Puis je pense que sans lui, j'y serais jamais allée de mon propre chef. Je pensais pas que c'était quelque chose auquel je pouvais accéder, ou du moins quelqu'un de... Parce que bon, je venais de la campagne, une famille d'agriculteurs. Pour moi, c'était les écoles de théâtre, c'était réservé aux enfants d'artistes, en fait. J'avais un peu cette croyance bête-là, et il m'a donc poussée à me présenter dans les écoles. J'ai fait mes auditions, et puis j'ai été acceptée au Conservatoire de Québec, où tout a commencé.
Olivier?
Ma voix d'écriture, j'avais 11 ans, j'étais sur un voilier, c'était en 1986, et ma voix... de théâtre, c'est à l'université, j'étais étudiant en sciences politiques et je faisais du théâtre en parascolaire, si on peut dire. Et c'est là que ça s'est vraiment, vraiment développé. 10 ans plus tard. 10 ans après le choc de l'écriture, dis-moi.
Comme quoi la politique mène à tout.
Ben, on parle d'acteurs politiques, on parle de scène, oui. Hein, sur la scène internationale.
Tout à fait.
Oui, il y a quand même... D'ailleurs, j'avais écrit des discours pour des politiciens quand j'étais étudiant en écriture à l'École nationale de théâtre. C'était bien plus payant qu'écrire des pièces de théâtre, d'ailleurs, mais pas mal moins drôle.
Oui. On part au début, La détresse et l'enchantement, c'est l'autobiographie inachevée de Gabriel Roy, c'est ancré dans notre littérature. Marie-Thérèse, j'avais lu que ça faisait même presque 30 ans que tu avais commencé à avoir des réflexions là-dessus, de cette adaptation théâtrale. Pourquoi c'était si important pour toi de t'approprier ce roman? Où est venue cette soif de parler de Gabriel Roy sur scène, ou de la faire vivre sur scène?
Ouais. La lecture de La détresse et l'enchantement a vraiment été un choc. C'est-à-dire que je savais qui était Gabriel Roy. À l'école, on l'avait étudié. Bon, on faisait tous un travail sur un de ses romans. J'avais lu un très bon papier sur cette autobiographie-là et je m'étais dit, j'aimais beaucoup le titre. Le titre m'avait beaucoup accroché. J'étais une jeune comédienne qui sortait de l'école. Puis je me suis mis à lire ça et j'ai eu l'impression, ça m'a parlé extrêmement. Ça a été vraiment une espèce de choc à la lecture parce que je reconnaissais d'une part des choses que, surtout le portrait des parents, ça me parlait fort, fort parce que je reconnaissais des histoires de ma famille, je voyais les personnages, je voyais le monsieur, la madame, je savais qui étaient ces gens-là. Et je pense que la voix de Gabriel Roy, sa façon de raconter, de faire vivre ces personnages, de nommer les mois, la détresse et l'enchantement qui l'habite, c'était quelque chose qui me parlait formidablement. C'est quand même, je pense que c'est le cas de tous les lecteurs de Gabriel Roy. Je pense qu'elle a ce pouvoir comme écrivaine de savoir toucher, de savoir mettre en mots une émotion, un récit. Sa façon de raconter est formidable. Mais je dirais qu'en plus, je sentais dans sa façon de raconter, je sentais la comédienne en elle. Et ce que je ne savais pas, moi, je ne savais pas qu'elle avait voulu être comédienne, mais que c'était quand même impliquée dans des productions, qu'elle avait joué, que leur troupe faisait participait à des festivals très importants, qu'ils gagnaient des prix. Et donc, elle a songé très, très, très sérieusement à aller chercher une formation en Europe pour devenir comédienne professionnelle. Et je trouve que ça se sent dans sa façon d'écrire, de raconter les histoires, et que je pense que c'est cet aspect théâtral qu'il y a dans son récit que je voyais percer à travers l'écriture et qui m'a donné envie de porter cette parole-là à la scène. Je trouvais que c'était une parole vivante qui pouvait vraiment s'exprimer sur un plateau de théâtre. Donc, j'ai commencé à faire un montage. J'ai eu une petite bourse pour ça. J'ai commencé à faire un montage, mais les premières lectures que je faisais, c'était quasiment des lectures d'extraits de romans, tellement j'arrivais pas à choisir. Puis bon, au fil des ans, je sortais ce projet-là, je travaillais dessus. Puis aussi, je prenais plus d'expérience comme comédienne, donc je savais de plus en plus de choses sur mon métier. Donc, le travail d'adaptation, ben, en fait, c'est pas une adaptation, c'est un montage. Se raffinait au fil des années aussi. Je voyais que tout ce que je pouvais mettre de côté qui appartenait davantage à la littérature et ce qui était plus propre à se retrouver dans une parole théâtrale. Donc, et puis, c'est, à un moment donné, c'est Olivier, avec qui j'étais toujours en lien, qui me dit « Ah, au Festival international de littérature, ils veulent célébrer le centenaire de Gabriel Roy. » Je lui avais parlé de ce montage-là assez brièvement, je pense. Hein. Je ne pense pas avoir tellement... Et puis, lui, ben, j'ai parlé de ton montage, on pourrait peut-être présenter ça.
Et moi, j'étais assez inculte sur Gabriel Roy. J'avais lu La petite poule d'eau, c'était une lecture obligatoire quand j'étudiais. Et puis, j'avais lu Bonheur d'occasion de moi-même avec un très grand enthousiasme et... Pour une raison qui m'échappe, je n'avais pas continué à lire d'autres bouquins de Gabriel Roy. Et donc, quand Marité, on en parle un peu plus, et effectivement, on doit beaucoup à Michèle Corbeil, la directrice du FIL, du Festival international de littérature, cette invitation. Bon, je me plonge dans l'œuvre, évidemment, je trouve ça fabuleux, mais c'est si littéraire que je ne suis pas sûr d'en voir un potentiel théâtral. Alors que Marie-Thé avait l'intuition qu'il y avait là une langue belle à entendre, alors que pour moi, elle était magnifique à lire, mais elle est quand même complexe. Elle est si écrivaine, cette écrivaine. C'est une tautologie, ce que je dis. Mais il y a des écrivains qui ont une oralité très forte où on se dit, ah, le passage à la scène, c'est évident. C'est pas évident chez Gabriel Leroy. Et la langue est si belle que c'était assez clair pour Marie-Thé et moi qu'on n'allait pas la triturer. Le but n'était pas de l'adapter, de la transformer, mais de la garder intacte. Évidemment, de couper, parce qu'une lecture intégrale de l'œuvre, c'est un spectacle de 16 heures.
C'est ça qui est intéressant. C'est, bon, dans l'histoire, on raconte son enfance à Sainte-Boniface, ses premiers pas en tant qu'institutrice. Elle part en exil pendant 2 ans en Europe, puis elle revient au Canada où elle décide d'être autrice. C'est toute une aventure, c'est tout un monde. Bon, pour vous, c'est quoi un montage théâtral? Mais justement, comment est-ce qu'on rend théâtral la littérature, surtout cette littérature-là?
Eh bien, je vais vous dire, dans un premier temps, on s'en fiche. C'est ça, c'est ce qui nous a sauvés. Mm-hmm. Je pense que si on avait tout de suite voulu en faire une pièce de théâtre, s'il n'y avait pas eu le passage du fil, soit moi j'aurais rendu les armes en disant c'est pas possible, soit on serait parti dans autre chose. Je ne sais pas qu'est-ce que ça aurait donné. Ce qui est fantastique au fil, au Festival international de littérature, ça le dit, c'est de faire de la littérature. Alors, évidemment, il y a un côté... Le but est de faire entendre quelque chose, mais chez Michel Corbeil, il y a cette permission et de ne surtout pas se forcer à faire des effets de fumée, du sparage, etc. De faire un spectacle littéraire et dédouaner de ce fardeau, si vous voulez, de absolument faire du théâtre. On est arrivé avec... un tabouret, 3 valises, une machine à écrire, une table.
Une théière.
Et lo-fi, là, au possible, tu sais. Et on s'est dit... Et Marie-Thé a lu. Alors, évidemment, c'est Marie-Thérèse Fortin. Elle n'est pas en train de vous lire une recette, là. Je veux dire, c'est quoi?
Chevalier des arts et des lettres.
Non, mais blague à part, c'est super incarné. C'est déjà... les 15 personnages, que dis-je, les 150 personnages qui sont là, Gabriel à tous les âges, etc. Il y a donc un théâtre ambulant malgré nous. Mais la preuve qui nous a éclaté au visage, c'est que cette langue était possible sur scène, complètement compréhensible, et si bien que beaucoup de spectateurs, spectatrices nous disaient « c'est formidable votre adaptation ». Croyant qu'on avait modifié, on a dit non, on a coupé, et on est parti du montage que Marie-Thérèse avait déjà réalisé. Et ça a été ça, finalement, le saut d'approbation du fil. C'est de là qu'on s'est dit, OK, là, oui, il y a peut-être une pièce de théâtre.
Oui. Mais je pense aussi. Je pense que la comédienne Gabrielle Leroy est dans son autobiographie. Je suis persuadée de ça parce qu'elle a trop voulu, puis elle a trop tenté du théâtre pour ne pas savoir ce qu'est un récit vivant. C'est-à-dire qu'elle a fait dans la littérature, comme tu le dis, Olivier, des récits, mais comment elle campe les personnages, comment elle les fait parler, parce que moi, j'incarne quelques personnages dans l'histoire, mais toute l'information, elle est dans le texte. Elle est donnée, on ne la livre pas nécessairement sur scène. Mais c'est raconté dans La détresse et l'enchantement. Donc, tout est là. J'avais juste à puiser dans ce qu'il y avait là et à me laisser guider par ça. Donc, c'est sûr que le spectacle, c'est pour les gens qui n'auraient jamais lu, parce qu'on s'est dit, c'est pas tout le monde qui va avoir lu La détresse et l'enchantement. C'est pas tout le monde qui va savoir qui est Gabriel Leroy, à la limite même. Mais c'était de donner une impression de Gabriel Leroy. Et surtout de raconter le parcours d'une jeune femme à qui avait vraiment pas toutes les chances de son côté, mm-hmm. et comment elle a trouvé, comme vous l'avez dit, sa voix, et comment elle s'est affranchie de sa condition pour aller vers son véritable soi, au prix de combien d'errements, d'essais, d'erreurs, d'échecs même, et de difficultés.
On parle de ce fond des questions qu'elle se pose. Le roman commence avec cette phrase magnifique qui commence votre spectacle même. « Quand donc ai-je pris conscience pour la première fois que j'étais dans mon pays d'une espèce destinée à être traitée en inférieur ?» C'est une phrase forte, ça nous parle, ça nous met en jeu de cette complexité entre la fierté d'une identité et l'envie de ne pas être coincé à l'intérieur de cette identité-là en même temps. Est-ce que vous vous y retrouvez là-dedans? C'est quelque chose qui vous a parlé tout de suite en tant qu'être humain, qu'individu, Marie-Thérèse, ça vous a parlé?
Oui, beaucoup. À plusieurs niveaux, c'est-à-dire que je pense qu'il y a dans toute la mémoire collective, il y a eu des périodes où le fait d'être francophone au Canada était problématique. Et dans certaines régions du Canada, ça l'est encore. Mais même au Québec, à un moment donné, c'était pas quelque chose on n'était pas la classe dominante. Il y avait une classe dominante et il y avait une classe inférieure qui était majoritairement francophone. Tout ça. Mais je pense que cette mémoire collective laisse des traces, à travers le temps. C'est-à-dire qu'on hérite aussi de ces... on hérite de l'effet de cette histoire-là. Et ça peut vraiment s'installer dans le temps dans on porte ça. Je pense que même si on s'est affranchi de certaines choses, il reste, je pense, des traces de cette condition-là. Et ce qui me touchait beaucoup quand j'ai lu cette première phrase de Gabriel Roy-là, c'était d'une part de prendre conscience que j'étais pas très, très au courant de ce que c'était qu'être francophone hors Québec. Et d'autre part, mais quand elle parle de sa visite chez Eton avec sa mère, et là, j'étais complètement avec elle et je savais exactement de quoi elle parlait et l'impression de cette différence était pour moi extrêmement précise et vivante et vivace. Je viens d'un petit village où à côté, il y a un lieu de villégiature qui s'appelle Métis Beach. Alors, on parle de l'Est du Québec, là, on parle du Bas-Saint-Laurent. Alors, il y a une petite enclave anglophone qui s'appelle Métis Beach et qui est faite de villas, de villégiatures, de grandes familles anglophones qui venaient passer leur été, quelques semaines par l'été, à Métis Beach. Et avec mes parents, on allait faire des tours en auto le dimanche pour aller admirer les immenses et très, très, très belles maisons et la richesse, quoi. Les choses auxquelles on n'accéderait jamais. Et cette petite enclave parlait strictement anglais. Et encore à ce jour, les francophones ne peuvent pas racheter, même si beaucoup de familles qui ont quitté, qui ne sont plus là, les francophones ne peuvent pas racheter ces maisons-là. Elles se passent de famille anglophone à famille anglophone. Donc, il est resté quelque chose d'une mentalité, d'une différence de supériorité et infériorité qui ne se vit peut-être pas de la même façon, mais qui est encore là. Donc, quand elle parle de cette infériorité-là, je sais de quoi elle parle. Je sais, c'est quoi?
On est rattrapé par la réalité. Hein. Moi, j'avais cette impression de faire œuvre utile de parler exactement ce qui est évoqué par Marité ici. Donc, les racines de malentendus, de différences, d'injustices. Et tu te souviens, Marité, en pleine tournée, il y a eu ce moment en Ontario où le gouvernement a décidé de fermer des écoles de langue française, la mise en pièce, le début de la mise en pièce de l'université de l'université Laurentienne, etc. Ouais, l'université française. Et donc, là, nous, on était en pleine tournée à ce moment-là. Je veux dire, Marité, elle est jouée à Sudbury, tu sais, faire le spectacle dans ce contexte-là. Je me souviens, la scène d'Eton, on entendait une mouche voler. Tu étais en train de décrire quelque chose.
Tu étais en train de se passer.
Ça, puis il y avait la jeune Gabrielle Roy obligée d'aller à l'école en anglais, etc. Tout ça, puis c'était en train de se passer en 2018, 2019. Donc ça, c'était assez effroyable. On ne pouvait pas imaginer que de telles iniquités se reproduisent. Elles sont différentes, hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est exactement le même paysage, etc. Mais ça évoque quand même ces frictions-là. Mm-hmm. Donc, il y avait... Ça, c'était toujours étonnant. On parle quand même d'événements qui se sont déroulés au début du 20e siècle, là, dans le cas de Gabriel Leroy. L'autre thème, enfin, il y en a plein, mais un thème tellement puissant dans l'œuvre et qui résonnait, c'est effectivement le combat, oui, que devait mener une femme qui était hallucinant, là. Il fallait le nombre de sacrifices pour mener une vie pleine et libre d'écrivaine. Il fallait que ça soit hors mariage, hors famille. C'était impensable, cette conciliation à cette époque. Néanmoins, il y a encore des combats différents, mais il y a encore des combats qui doivent être menés par les femmes. Et ça résonnait. Ça résonnait beaucoup dans les salles qu'on a pu faire à travers le Canada, quelles que soient les origines socio-économiques des pays. Il y a vraiment eu des réactions de la part du public, notamment, ça, pour nous, c'était très touchant. Je me souviens d'avoir vu beaucoup de petites filles qui étaient venues avec leur grand-mère. Hein. Ça, il y avait des filles qui venaient, là, multigénérationnelles, qui retrouvaient des échos par-delà les âges de ces combats. Tu l'as très bien dit, Marité, d'une recherche, pour paraphraser Virginia Woolf, d'une chambre à soi.
Ouais.
C'est ça la quête de Gabriel, de retrouver... Et ça ouais, c'était bouleversant. Je pense que j'avais pas, à ce point-là, j'avais peut-être sous-estimé l'impact... la résonance actuelle. Je savais bien que par la beauté de cette écriture, mais pour moi, je faisais devoir de mémoire en évoquant la détresse et l'enchantement et d'une traversée, quand même, il faut bien le dire, d'une première moitié du siècle, parce que le roman se termine avec le retour de Gabriel Leroy au moment de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on est dans les 50 premières années. Et je pense que je ne mesurais pas à quel point ça décrivait aussi, en quelque sorte, le monde d'aujourd'hui. Ce qui est assez, j'allais dire, décourageant. En tout cas, bouleversant de voir que certaines choses ne... Il y a des luttes encore à mener, quoi. Ouais.
J'aimerais juste revenir sur votre le travail artistique un peu sur ce spectacle. J'ai lu ou j'ai entendu, Marie-Thérèse, que tu disais que tu ne jouais pas Gabriel Roy, tu n'incarnais pas Gabriel Roy. Parlez-moi un peu de ça. Comment est-ce qu'on trouve ce niveau de jeu? C'est pas tout à fait c'est pas un personnage nécessairement que tu joues, mais c'est un personnage, mais c'est pas une incarnation. Mm. Comment est-ce que vous avez joué avec ça en répétition dans votre création?
Ben, il y avait un premier défi énorme, c'est cette traversée de donc 20-30 ans et cette multiplicité des lieux, du Manitoba à la France en passant par l'Angleterre, etc. Comment reproduire ça sur scène? Comment évoquer tout cela? Et assez vite, le cadre de l'écriture de La détresse et l'enchantement nous a donné des clés. Elle a écrit ses mémoires à Petite-Rivière-Saint-François, au pied du massif dans le Charlevoix. Et on est allé assez rapidement au début du projet, Marité et moi. C'est à une heure à l'est de Québec. Et il y a eu un déclic, là. Hein. On a eu la chance d'arpenter les terres de ce minuscule chalet. Vous pouvez pas imaginer la modestie du lieu. Honnêtement, c'est pas le manoir, là. Ça, c'est bouleversant de voir ça. Hein. Oui. C'est vraiment une petite bicoque, super belle, mais oui, très modeste, comme ça, qui est dans un environnement, je dirais pas austère, mais on est acculé. Hein. Il y a vraiment le massif dans le dos. Après, il y a une espèce de falaise. C'est pas le côté bucolique de Métis ou de Kamouraska, hein? C'est autre chose. Il y a quelque chose de plus âpre, plus où on reconnaît complètement le caractère tellurique, on va dire, de Gabriel Leroy. C'est splendide, hein? C'est vraiment splendide. Oui. Mais
le point de vue est incroyable.
Ouais. Et là, on l'a vu, Marité. Moi, ça, on n'a pas beaucoup parlé, hein? Je pense qu'on l'a vu arpenter sa terre, écrivant, jouant tous ses personnages. Et on est revenu à Montréal. On a commencé à répéter avec la scénographe qui a reproduit carrément, elle était avec nous, la scénographe, elle est allée voir, reproduit les strates, parce que c'est beaucoup des rochers, des strates comme ça, là, le long des berges du Saint-Laurent, cette espèce de côté de falaise, justement. Et puis, Et puis Marité s'est amusée à imaginer Gabrielle Leroy, elle-même imaginant tous les personnages qu'elle rencontrait. Et on est tombé, presque par hasard dans nos recherches, sur un article de Jacques Godbout, alors qu'il était dans la revue, je pense, Liberté, jeune écrivain qui était allé à la rencontre, parce que c'est ce que nous expliquait François Ricard, hein, qui vient hélas de nous quitter, qui était le légataire de Gabrielle Leroy, qui a dirigé le fonds Gabrielle Leroy. Et on lui doit La Détresse et l'Enchantement, c'est lui qui l'a édité de manière posthume. Et il fallait être adoubé par cette écrivaine quand on était un jeune écrivain canadien, québécois. C'était important d'aller voir Gabrielle Leroy. Et donc, tous les Pierre Morency, les François Ricard, les Jacques Godbout nous ont tous raconté cette fameuse première fois. Et donc, on tombe sur un article où Jacques Godbout dit, voilà, je débarque chez elle à Petite Rivière Saint-François, et elle se met à me raconter un pan de sa vie en imitant tel personnage, en me reproduisant telle scène, en me faisant beaucoup rire d'ailleurs, en prenant... Et il décrit une Gabrielle Leroy comédienne, et en fait, il décrit ce qu'on est en train, nous, un peu inconsciemment, de mettre en scène. Ça validait notre démarche.
Oui, parce que c'est sûr que c'était pas l'idée de d'imiter. Il y avait quelques rares documents de Gabrielle Leroy vivante à Radio-Canada, par exemple, une entrevue avec Judith Jasmin. Mais c'était pas de reproduire Gabrielle. Mais c'était plus d'être un porte-voix d'une certaine façon, c'est-à-dire de transmettre ses mots. Mais bon, bien sûr, avec Olivier, on a choisi un costume qui est un peu son style. La petite jupe d'institutrice, un peu droite, à plis, très, très sobre. Hein. C'était pas une exubérante, Gabrielle. Bon, pour indiquer, c'est comme c'est presque un croquis de Gabrielle Leroy qu'on a fait, puis le reste, ben, c'était vraiment ses mots, ça existait à travers ses mots, et ce jeu de comédienne dont parle Olivier, qu'elle se plaisait à partager aussi, elle se mettait à jouer littéralement quand elle racontait ses histoires, donc on s'est senti autorisé de le faire nous aussi, parce qu'elle le faisait, d'après Jacques Godbout. Puis, il y a aussi la femme de Pierre Morency, qui a été très proche de Gabrielle Leroy, il était presque voisin à Québec, il allait prendre le marche sur les plaines d'Abraham, qui m'a dit qu'elle était très contente qu'on ait fait montre du sens de l'humour de Gabrielle Leroy, de son côté très drôle, parce qu'elle était très drôle, alors qu'on pense pas à elle comme ça, parce qu'on la voit comme une écrivaine très pénétrée de son écriture, de sa littérature, ce qu'elle était aussi par ailleurs, mais elle pouvait être aussi très, très amusante et très, très coquine même.
Ce dont le titre témoigne. Ouais. C'est fou, mais le nombre de fois on est revenu au titre. Ouais. Le nombre de fois on se disait, bon là, attention, on est dans l'excès de détresse, il faut aller vers l'enchantement. Et inversement. Oui. On se présentait comme duo en rigolant, en disant « Moi, je m'occupe de la détresse, l'enchantement, c'est évidemment Marité. » On en a fait beaucoup de blagues parce qu'on a beaucoup ri. Non, mais c'est vrai, on a beaucoup ri. Alors que, évidemment qu'il y a un fond, je ne sais pas si le mot est tragique ou dramatique, mais c'est quand même, je reviens à ça, le nombre de sacrifices qu'elle a dû faire, le nombre d'embûches qu'elle a dû... Il y a des moments où on est effectivement dans la détresse, elle ne fait pas l'impasse là-dessus, mais il y a des moments de pur enchantement et ça nous a guidés tout au long, non seulement du travail de mise en scène, mais du travail de conception, des éclairages, des choix musicaux, des lignes d'interprétation pour Marité. Et c'est là où ça devient non seulement un morceau de bravoure, mais quelque chose d'assez chouette à défendre pour une comédienne. C'est qu'il y a une telle multiplicité d'émotions, il y a une telle palette. Donc c'était un terrain de jeu fantastique pour Marie-Thérèse d'avoir à défendre ses multiples Gabriel, ses multiples voix. Et ça, c'était formidable. On est aussi, il faut bien le préciser, au théâtre, déchargé du mimétisme. On est nullement obligé, comme dans un biopic, de reproduire. Donc, on est, comme je disais, on n'a jamais travaillé sur un mimétisme d'accent, de voix ou quoi que ce soit. On fait s'inspirer d'une énergie ou quoi que ce soit, mais après, le théâtre est fantastique pour ça. C'est quand même un terrain de liberté. Et, bon, je pense que parmi les beaux compliments qu'on a pu recevoir, il y a eu quelques spectateurs qui ont eu la chance de croiser Gabriel Leroy de son vivant, et qui l'ont reconnu. Et ça, c'était qu'ils l'ont reconnu sur scène en voyant Marité. Vous avez réussi à capter des bribes de son âme, de son essence, de ce qu'elle était. Et ça c'était assez bouleversant d'entendre ça, quoi. Je pense notamment à la première, dont François Ricard, qui l'a
drôlement bien connu.
Eh bien, on a la chance et on a hâte de recevoir La Détresse et l'Enchantement du 21 au 23 avril prochain au York Theatre à Vancouver. Si vous voulez acheter vos billets, c'est www.16e.ca. Merci beaucoup, Marie-Thérèse. Merci, Olivier. Et on vous voit très bientôt à Vancouver.
Merci.
À